Bonsoir, c'est le magazine sur Radio B. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nathalie Mazzoli et Ophélie Deté, deux des organisatrices du Salon du Polar Cépage Noir, dont la troisième édition se déroulera au domaine Luquet à Fuissé en Saône-et-Loire, le samedi 27 avril 2024. Mesdames, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes deux lectrices passionnées depuis toujours.
Oui. Enfin, depuis l'âge de savoir lire. Le polar est venu après, quand même.
Pour moi, ouais, depuis très longtemps. Et j'ai toujours lu des polars. Ou, à l'époque, le Club des Cinq, Alice, voilà.
Quelles autrices, quels auteurs vous ont donné envie de lire?
Auteur, je ne saurais pas dire. Hein. Premier livre qui m'a marqué, c'est Pompon à la montagne, quand j'avais 7 ans. Ah. Donc, je ne sais plus qui l'a écrit, forcément. Mais accroché au polar, c'est des auteurs tels que, au début, Franck Tillier, les plus connus. Puis après, on s'oriente sur ceux un peu moins connus, comme Cédric Cyr, Malloc, dont j'attends désespérément qu'il soit à nouveau édité. Et puis tous ceux dont on voit actuellement, que ce soit Claire Favant, Cyril Carrère, Alexis Lebsker, et puis il y en a tant d'autres, tous presque maintenant.
Si je dis, vous êtes fan de polar depuis toujours?
Depuis très longtemps,
bon,
oui.
Pas toujours.
Depuis l'adolescence, disons.
Moi, depuis toujours, oui.
Ah ouais.
C'est pratiquement mon seul, les seuls livres que je lis. Ouais. Je lis très peu d'autres.
Parce que le Club des Cinq, c'est un petit peu polar finalement quand même.
Bah hein. Oui.
Vous faites une différence, vous, entre le polar, le roman noir et le thriller.
La limite est difficile à franchir. Je ne sais pas si tu vois, Ophélie, si tu aurais une définition.
Ouais, peut-être polar, vraiment juste quand il y a l'enquête policière. Mais après, entre le roman noir et le thriller, j'ai un peu plus de mal à déterminer la limite entre les deux.
J'aurais dit thriller peut-être quand c'est une enquête menée par quelqu'un d'autre qu'un enquêteur, que ce soit un journaliste ou une personne lambda. Et le roman noir, peut-être tout ce qui est un peu sociétal, un peu noir, quoi, ce qui se passe réellement dans la société actuelle.
Que ce soit le polar, le roman noir ou le thriller, il y a une couleur qui prédomine, c'est le noir. C'est l'une de vos couleurs préférées?
C'est une non-couleur, mais vestimentairement, oui, ça va bien, ça passe avec tout. Après, oui, le noir, j'aime bien qu'il n'y en ait pas trop dans la vie, c'est l'avantage des polars. On voit l'horreur qui peut exister, et quand on regarde une autre vie à nous, heureusement, elle n'y ressemble pas. Et ça rassure quelque part, c'est plus rassurant que de lire des romans d'amour et de se dire « mince, ma vie, c'est pas ça ». Voilà, c'est l'avantage du polar.
Le noir niveau littérature, oui, ce que je disais, de toute manière, j'ai pratiquement lu que ça et je lis pratiquement que ça. Niveau vestimentaire, un petit peu.
Au niveau général, hein.
Au niveau général, non. Non, dans la vie, j'aime plutôt la couleur, les côtés joyeux. Je m'éloigne des personnes très noires, mais dans la littérature, j'adore.
Alors, on vous voit souvent dans les salons dédiés au polar. Quel rapport aviez-vous avec ce genre de manifestation avant d'en organiser un?
On a commencé par être visiteuse. Lectrice, curieuse, très intimidée à aller parler aux auteurs dont on adorait les romans, parce que c'est toujours intimidant au début, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'ils sont aussi humains que nous, finalement. Et après, ça passe mieux. Et après, c'est juste du plaisir de retrouver non seulement les auteurs, mais finalement les gens qui, comme nous, vont régulièrement sur les salons. On finit par faire des petites communautés, on se reconnaît, on boit des verres ensemble, on mange ensemble. C'est très familial, presque.
Moi, j'ai commencé tard. J'ai commencé avec un salon qui était dans le coin, qui était plutôt du fantasy, mais il y avait une petite partie, auteur de noir, qui était où c'est Nathalie qui faisait venir les auteurs. C'est comme ça que je l'ai connue d'ailleurs. Et ensuite, je suis restée. Ensuite, elle m'a proposé pour ses pages. J'ai dit oui d'être bénévole. Et après, par force et par amitié, en fait, j'ai commencé à la suivre sur les salons et c'est comme ça que je m'y suis mise.
Qui suit l'autre alors?
Ça dépend des fois.
Ouais.
Au début, peut-être moi, elle, et maintenant, on se suit toutes les deux.
Voilà, on se coordonne.
Faire les salons, c'est aller à la rencontre des autrices et des auteurs. Qu'est-ce que cela vous apporte, à part d'avoir une dédicace?
La partie humaine, la partie amicale. Alors, un truc à savoir avec les auteurs de polar, c'est qu'ils ont beau écrire des horreurs. Tout le noir, ils le mettent dans les livres. Et quand on parle avec eux, il reste que la lumière, il reste l'humour, il reste l'intelligence. Donc, en fait, ce sont des personnes absolument passionnantes. Donc, c'est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec eux. Et puis, il y a toujours aussi une très, très bonne humeur sur les salons du polar, en principe, que ce soit avec les auteurs, avec les organisateurs, avec les visiteurs. C'est convivial et bon enfant, en principe. Il n'y a personne qui veut essayer de passer par-dessus les autres, qui veut faire son intéressant. Il y a vraiment beaucoup de choses très positives sur ces salons.
Quand avez-vous décidé de passer de l'autre côté de la table, je dirais plutôt sur le côté de la table, celui de l'organisatrice?
Alors, j'ai commencé comment ? J'ai commencé en entrant comme bénévole au Salon Fantasy en Beaujolais dont Ophélie parlait juste avant. C'était en 2011, donc ça commence à dater. Donc, pendant plusieurs années bénévole, petit à petit, je suis passée un peu plus dans l'organisation de ce salon jusqu'à organiser la partie polar, qui n'existait pas avant. D'ailleurs, c'était mon envie, mon idée. Et puis, cette aventure-là s'est arrêtée parce que le salon a connu quelques difficultés, que c'était devenu plus compliqué. C'est quelque chose qui m'a manqué finalement parce que c'est une autre approche du livre, une autre approche des écrivains, une autre approche même vis-à-vis des lecteurs. Et puis, comme on dit qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, et j'aime bien aller sur des salons, donc autant en faire un près de chez moi, ça c'était bien. Donc voilà, c'est comme ça que petit à petit est né Ces Pages Noires. Au départ, Ces Pages Noires, c'était juste une association quand j'étais libraire à la FNAC, pour la petite histoire. Je faisais venir des auteurs en dédicace, et l'idée, c'était de pouvoir les faire manger avec les lecteurs pour la partie convivialité et le vrai échange, parce qu'une table de dédicace, ça fait quand même barrière, une table de repas, ça fait pas barrière du tout. Sauf que l'enseigne FNAC, c'était pas dans sa charte, donc il aurait fallu que le magasin offre le repas de tous les lecteurs, ce qui était juste impossible. Donc j'avais réglé le problème en montant l'association, de manière à ce que quand les auteurs venaient en dédicace pour la FNAC, le repas c'était pas la FNAC, c'était l'association. Et c'est né comme ça. Le premier salon aurait dû avoir lieu dans la FNAC en avril 2020. Donc voilà, 2020, on a tout dit. Donc le premier a eu lieu en 2022, voilà. Maintenant.
L'association est née officiellement le 23 octobre 2019, du côté de Saint-Didier-sur-Chalaronne.
Voilà, dans c'est l'un. Ça. Pour faire des repas, hein. C'est très gourmand à la base l'idée quand même.
Tu le disais, la première édition de Ces Pages Noires devait avoir lieu le 25 avril 2020 à la FNAC de Belleville-sur-Saône. Donc le 20 mars 2020, vous annonciez que la date était tombée à l'eau.
Ben oui.
Le 2 juin 2020, vous annonciez la première édition de Ces Pages Noires pour le 3 octobre 2020 à l'hôtel Charme en Beaujolais à Belleville-sur-Saône. C'est pratique, la page Facebook.
Oui.
Donc 8 autrices et auteurs présents. Donc le 23 septembre 2020, vous annonciez à regret que vous annuliez le salon au vu des conditions pas réunies pour organiser une telle manifestation. Vous vous êtes dit, on abandonne, on attend des jours meilleurs.
On s'est dit, on attend des jours meilleurs. Déjà, entre-temps, ça ne se passait pas forcément bien en termes de travail où j'étais, avec l'envie de partir qui était présente, ce que j'ai fait entre-temps d'ailleurs, hein, puisque j'ai démissionné en 2021. Donc, je ne pouvais pas continuer l'aventure dans les conditions qui étaient prévues au départ. Et puis, il y avait quelque chose qui m'intéressait plus aussi dans l'idée de faire du polar. C'est qu'un polar dans un magasin, je trouvais ça triste. C'est juste de la vente. L'échange n'est pas le même. Je voulais vraiment qu'il y ait un aspect convivial. Et l'idée du repas, en fait, je me suis dit, mais on a un terroir à côté. On peut mettre du vin. Et pourquoi pas le vin, le polar, ça se marie bien. C'est une ambiance. Il y a quelques salons qui existaient comme ça, comme le Clos Vougeot ou des choses, mais pas beaucoup. Et l'idée, c'était de pouvoir mettre en avant les viticulteurs du coin, les crus, ce qui pouvait être fait en dehors. Et l'idée de faire un salon chez le viticulteur est venue comme ça, en disant on va tenter. J'ai demandé des auteurs sur des salons, justement ça sert à ça aussi, les salons, à discuter avec eux. Une espèce d'étude de marché où je suis allée demander à plusieurs si le concept pourrait les intéresser. Alors non seulement ils ont tous été intéressés, mais c'est que certains qui n'en avaient pas parlé sont venus me voir en me disant ça m'intéresse, est-ce que je peux venir ? Donc je me suis dit banco, il y a un truc à faire là, et c'est là que j'ai cherché un viticulteur pour la première édition.
Donc vous avez ensuite organisé quelques séances dédicaces, ça c'était en 2021 avec repas avec les autrices et auteurs à la clé, le 18 septembre 2021 avec Laurence Perrin.
C'était encore dans le cadre de la FNAC. Oui, voilà.
Le 2 octobre 2021 avec Bob Garcia. Le 1er novembre 2021, vous relancez officiellement le salon Ces Pages Noires pour le samedi 23 avril 2022 et dans un domaine viticole situé à Blacé. Alors ça a été facile de relancer la machine, sachant que l'avenir était toujours incertain, même si l'espoir fait vivre là.
Voilà. Au niveau sanitaire, ça allait. Le risque était quand même bien éloigné. La difficulté a été que sur cette première édition, déjà, j'étais seule pour la lancer. Donc, ça a demandé une énergie phénoménale. Il a fallu trouver un viticulteur et honnêtement, une vraie galère. Peu savent à quel point ça a été compliqué. C'est que j'ai tout fait dans le désordre. J'ai commencé à inviter les auteurs sans même savoir où on irait. Donc, j'avais déjà une liste d'auteurs qui avaient dit oui, les éditeurs qui étaient partants et qui me demandaient, mais on peut avoir plus d'infos sur l'adresse exacte. Sauf que je disais, pour l'instant, on garde secret. Bon, bah, même moi, j'avais pas la clé du secret. Je n'avais pas encore le lieu. Je l'ai eu en décembre. Autant vous dire que ça a été très, très stressant. Après, ça a roulé. Ça a été beaucoup de boulot toute seule. Heureusement, Ophélie est arrivée après parce que je pense que j'aurais pas pu tenir ce rythme tous les ans. C'était pas possible.
Vous avez appelé le salon Ces Pages Noires. Un clin d'œil aux amoureux du vin rouge et aux fans de vin rouge, plutôt.
Oui, c'était juste plus sur le cépage. Après, la couleur, c'est plus pour le polar. Surtout que j'ai prévu un petit sous-titre si jamais on a envie d'inviter des auteurs qu'on aime bien et qui font de la blanche. C'est qu'il y en a aussi et ses accords de blanc en sous-titre.
On en parlera
si on veut un jour.
Avec la troisième édition. Aux amoureux du vin rouge, je pensais plutôt au vin rouge parce que c'est Ces Pages Noires, et aux fans de polar. Alors, cela trahit-il quelque peu vos origines et votre goût pour le jus de raisin fermenté et alcoolisé ?
pourquoi pas ? Il ne faut pas se priver des plaisirs non plus. Après, je n'y connais rien en vin. J'avoue que quand j'achète une bouteille, c'est parce que l'étiquette est jolie en principe. C'est une catastrophe. Mais ma famille vient du milieu viticole, du côté de ma mère. Elle a vécu dans les vignes, ma grand-mère avait des vignes, j'ai des oncles qui travaillaient les vignes. Donc j'aimais pas leur vin, c'est vrai, j'avoue. Je peux le dire maintenant. Mais il y a quand même cette ambiance de, voilà, qui était là quelque part, cette culture qui était là. C'est parti un peu de ça aussi, du fait d'être dans la région. C'est vrai que, hormis le vin, on a les spécialités culinaires, mais de là en faire un salon, c'était plus compliqué.
Vous êtes nombreux dans l'association ?
Non, on n'est pas nombreux du tout. Ophélie aura plus les chiffres que moi, parce que c'est elle, la chef trésorière, qui gère les chiffres, celle qui a la tête sur les épaules. Je ne sais pas si tu as le chiffre exact, on a vu entre une trentaine les années précédentes.
En nombre d'adhérents, on est à peu près à 25. D'accord. Cette année.
On a relancé les adhésions il y a 2 mois, quelque chose comme ça.
Donc, trouver des bénévoles pour organiser un salon du polar, c'est facile ?
Alors, au départ, ils sont venus tout seuls. Cette année, ça a l'air d'être un peu plus compliqué. C'est Ophélie qui gère. Donc, chef bénévole, tête sur les épaules, c'est Ophélie.
La première année, moi, j'étais bénévole. Donc, du coup, je ne sais pas trop. Et effectivement, elle a géré toute seule. Sur la deuxième année, j'ai dit, n'hésite pas à me demander. Je me suis investie, je n'y ai pas trop donné le choix non plus pour la soulager. Et au niveau des bénévoles, alors l'année dernière, ça allait. Cette année, on a un peu moins de bénévoles puisque y a les aléas de vie qui font que des fois, on n'a pas le temps, la date ne correspond pas. Donc cette année, je vais avoir une quinzaine de bénévoles, mais en général, on est entre 15 et 20 bénévoles.
Il faut bien ça ou ça
il faut bien ça, en fait, au regard de tous les postes et pour que tout se roule bien et qu'en plus les bénévoles puissent aussi profiter du salon, aller faire dédicacer leurs livres, puissent profiter des auteurs aussi, des repas avec eux, donner le temps à chacun en plus de la partie bénévolat. Du coup, il faut, le 15, c'est minimum.
Nathalie, t'es toujours présidente ?
Oui, toujours. Ouais.
Et Ophélie, toujours trésorière ?
Trésorière, oui.
Alors, comment vous êtes-vous organisée au niveau de l'association ? Comment sont réparties les tâches, justement ?
Alors, ça fluctue des fois. Maintenant, donc Ophélie, depuis qu'elle est trésorière, gère clairement tout ce qui est aspect financier, les calculs, les choses très sérieuses. Je m'occupe plus de ce qui est communication sur les réseaux. Les invitations, les liens avec les éditeurs pour ce qui concerne les auteurs. Ophélie va s'occuper plus de ce qui est terre à terre, on va dire,
logistique. La logistique. Organisation, voilà. Tableau. Après, de base, je suis coordinatrice d'un laboratoire. J'ai l'habitude de coordonner, de mettre en place, de faire des tableaux. C'est la partie que j'aime bien.
Voilà, après, on se coordonne sur pas mal de choses, sur qui on invite, pourquoi, voir si c'est faisable ou pas faisable. On a un impératif budgétaire à chaque fois, donc on se renseigne sur d'où vient l'auteur, combien de nuits d'hôtel il faudrait prévoir, est-ce que ça rentre dans le budget, ça rentre pas, toutes ces questions-là, donc ça on en discute ensemble, nos envies, les impressions qu'on a eues aussi en discutant avec les auteurs, parce qu'un des critères principaux quand même pour inviter un auteur, au-delà de son talent, ça va être qu'il soit sympa. Si on croise un auteur de très grand talent, mais qui est juste imbuvable, clairement il mettra jamais les pieds au salon, parce que ça nous intéresse pas, nous on veut de la convivialité, c'est vraiment le maître mot du salon. Après sur les autres tâches, on se concerte quand même sur pas mal de choses.
Quels sont les moyens financiers de Cépage Noir ? Pas facile de trouver des sponsors, j'imagine ?
Très compliqué. Sachant que la culture n'a pas le vent en poupe au niveau politique, donc tout ce qui est subvention, c'est la croix, la bannière pour en avoir, on n'en a pas. Donc les sponsors, pour l'instant, on n'en a pas vraiment. On a des aides, on a nos partenaires, en fait, l'hôtel qui va nous faire des prix, on a le viticulteur qui nous invite gracieusement dans son domaine à chaque fois, on a le libraire qui nous reverse un pourcentage sur ses ventes, voilà, on a en partenariat, on a ceux qui vont venir faire le food truck cette année, par exemple, qui fait des prix, enfin, des choses comme ça. C'est plus des avantages que de l'apport financier. Mmh. Donc c'est difficile après à gérer, de trouver, il y a les adhésions, il y a les dons, ce que reverse le libraire, il y a la buvette le jour du salon, il y a la tombola, on essaie d'avoir des gros lots. Le premier lot il a une valeur de 400 euros à chaque fois, de livres. Donc histoire de vendre des billets de tombola qui permet vraiment de financer une partie du salon.
Alors vous direz, si je me trompe, mais il y a une majorité de femmes dans les salons du livre, que ce soit au niveau de l'organisation ou du public, je me trompe là quand je dis ça ?
Non, mais 80% des lecteurs sont des lectrices. Oui. Donc en fait la logique se retrouve là, les chiffres sont les mêmes en fait, tout simplement.
Comme aurait pu chanter le Patrick Juvet, où sont les hommes ?
Eh bien, on les cherche aussi parfois.
Ils sont acceptés.
Ils sont les bienvenus. Donc, il y en a quelques-uns quand même. On a des bénévoles masculins. Il y a des lecteurs. Et c'est marrant d'ailleurs parce qu'il y a beaucoup plus de lecteurs femmes, lectrices, et beaucoup plus d'auteurs masculins connus. Mm-hmm. Pourtant, les autrices, il y en a des tonnes, hein, les Louves font parler d'elles, mais c'est vrai qu'elles sont encore assez difficiles à mettre en avant, parfois. J'avoue que cette année, on a un souci, enfin un souci, c'est peut-être pas le mot, on a un conflit avec ça, c'est qu'on aurait aimé avoir plus de femmes présentes. Certains vont peut-être nous faire la réflexion, il n'y en a que 3 cette année, sur 15. Et c'est pas faute d'en avoir invité, mais avec les contraintes budgétaires, beaucoup habitent loin, beaucoup ont des enfants, il y a une partie de la France qui sera en vacances à ce moment-là, donc les autrices étaient avec leurs enfants. Les contraintes budgétaires, quand il fallait payer 2 nuits d'hôtel, c'était juste pas possible. Donc les autrices du sud-ouest, du fin fond du nord ou autre, c'était plus possible. On a une autrice qu'on aimerait beaucoup avoir, et il y a son anniversaire qui tombe ce week-end-là, donc elle a dit « je pourrais jamais venir ». Donc cette année, ouais, on a très peu de femmes qui seront présentes, et pourtant on en a invité plus que des hommes, je pense, au départ.
Oui, oui. Ouais. Entre les autrices, les auteurs, le lieu, la date, les transports, les logements, les repas et la librairie qui vous accompagne, organiser ces pages noires est un travail de tous les jours. Vous y pensez toute l'année qui précède le salon, voire plus?
On y pense longtemps à l'avance. On a commencé à parler de 2025, là. On a
déjà... oui, voilà. Après le salon, on se donne une petite pause quand même, jusqu'à septembre à peu près. Et puis après, c'est là où il faut commencer à lancer les invitations, commencer à en parler.
Et encore que l'an passé, on a commencé à lancer les invitations dès le mois de mai, puisqu'on profite des salons où on va pour en parler aux auteurs qu'on a envie de voir, s'ils seraient intéressés. L'idée, c'est de leur en parler à eux en premier, savoir s'ils seraient intéressés, s'ils auraient envie de venir. Et s'ils ont envie, on passe par la voie officielle ensuite, en faisant l'invitation à leur maison d'édition. Mais c'est vrai qu'on a tendance à commencer à en parler en mai, à prendre quelques noms, à commencer à lancer les invitations, même si systématiquement on nous dit « le planning n'est pas prêt, on ne peut pas vous répondre tout de suite ». Et à partir de septembre, oui, là, on lance les invitations plus officielles, avant que les têtes d'affiche soient prises ailleurs, avant qu'elles soient déjà engagées. Et après, ça se fait petit à petit. Et souvent, on a des réponses qu'en janvier. C'est une vraie complication pour organiser le prix, d'ailleurs.
On ne se rend pas vraiment compte, mais organiser un salon du polar d'une journée prend un temps fou.
Oui.
C'est pas trop frustrant, le temps passé pour 8 heures de salon dont vous ne pourrez pas profiter comme vous aimeriez?
Oh, on en profite quand même, hein.
On en profite, mais c'est vrai que la journée passe très vite.
Voilà, c'est pas comme une journée de boulot, hein. C'est pas le même rythme.
C'est pas comme un salon où vous êtes simple visiteuse.
Oui, non, rien, ça va très très vite. On a le temps de voir très peu de monde. On arrive quand même à peu près à voir les auteurs qu'on a invités, heureusement, à peu près. Mais des fois, on a des amis qui viennent, des visiteurs. Alors là, par contre, ça court dans tous les sens et c'est beaucoup plus compliqué.
Quelque part, c'est un peu frustrant.
Oui, mais c'est quand même beaucoup de plaisir.
Oui, principalement, c'est ce qui reste. Hein. Vraiment, ce n'est pas la frustration, le sentiment qui va rester. C'est plus le plaisir. Et puis, c'est le plaisir de voir les sourires partout. Parce qu'on ne voit que des gens heureux ce jour-là. Et ça fait une vraie bouffée d'oxygène pour la suite. Donc, même s'il y a le stress qui monte. Et à l'approche du salon, c'est de pire en pire. On est sous pression, prête à exploser. La peur qu'il y ait quelque chose qui aille de travers, etc. Donc, on essaie de tout régler au millimètre, longtemps à l'avance. Histoire que les pépins de dernière minute, on s'en fout. Le reste, c'est géré. Donc ça, on peut faire. Voilà, mais après, oui, ça passe très, très vite. Il y a une vraie distorsion temporelle ce jour-là. 8 heures passent en 4 heures, à peine. C'est fou.
Alors, ces pages noires se déroulent un samedi de la deuxième quinzaine d'avril. Alors, pourquoi un samedi et pourquoi fin avril?
Alors, à la base, c'est plutôt maintenant le dernier samedi d'avril pour ne plus tomber sur les vacances scolaires de la zone. Déjà, parce qu'on s'est rendu compte que les visiteurs, quand ils sont en vacances, forcément, ils ne viennent pas. Donc, c'était un peu dommage de faire un événement quand on se coupait du potentiel de visiteurs. Et fin avril, c'était après avoir regardé tous les salons qui existent en France, c'était une date plutôt calme. En fait, on ne tombe pas en même temps qu'un gros salon, parce que le souci des gros salons, c'est qu'ils attirent les têtes d'affiche, ce qui est logique. Et que si on n'a pas au minimum quelques têtes d'affiche pour attirer le public qui n'est pas vraiment connaisseur ou qui connaît pas beaucoup de noms d'auteurs, en fait, on n'attirera pas grand monde, surtout qu'on les fait venir à chaque fois dans un lieu différent, pas toujours très facile à trouver. Donc, si on n'a pas un potentiel de nom qui va les allécher, ce serait très compliqué.
La promo du salon est très importante, et sur les réseaux sociaux, inévitablement. Vous vous y prenez combien de temps à l'avance? Ça, c'est pas trop chronophage, ça, par contre? J'imagine que oui.
Si.
C'est
si,
hyper
si,
chronophage.
C'est très chronophage. Là, pendant un an, j'avais un peu de temps, donc j'ai fait aussi la promo d'autres auteurs pendant l'année, histoire que les pages Instagram, en tout cas, des cépages noirs soient vivantes, en publiant des stories de retour de lecture de lecteurs, simplement, et en taguant auteurs, lecteurs, maisons d'édition. Donc ça a permis de faire monter le nombre d'abonnés, d'avoir un peu de visibilité. Bon, maintenant, j'ai plus le temps, parce que le rythme de vie est différent. Donc la promotion, c'est vraiment pour le salon, maintenant uniquement pour le salon, mais c'est vrai que c'est du temps pour programmer les publications, c'est du temps pour les repartager ensuite à chaque fois, pour répondre aux gens.
Et pour les écrire aussi. Hein.
Oui, pour les aussi, écrire, trouver quoi dire, bah pas oui, se répéter c'est... trop à chaque fois, alors que finalement on a la même chose à dire, bah oui. Mais voilà, c'est pas très simple. Donc oui, c'est pas mal de boulot qui s'étale, on va dire, entre janvier et avril, où là vraiment c'est la grosse partie communication, et plus on approche du salon, plus il faut accélérer le rythme pour être très visible un petit peu tous les jours. Il faut trouver du contenu, ce qui n'est pas toujours simple, c'est pour ça qu'on annonce les auteurs en deux fois à chaque fois, avec un petit jeu et deux jours après la réponse. Ça permet d'avoir plus de visibilité. Là, cette année encore, on a demandé des vidéos aux auteurs, donc on verra qui joue le jeu, qui ne joue pas le jeu, si on fait carton plein ou pas cette année, avec 15 vidéos, c'est pas gagné, mais voilà, ça permet de faire parler un peu.
On n'en parle pas assez, mais la promo ne serait rien sans les influenceuses et les influenceurs, que sont les blogueuses et les blogueurs. Dans le monde du livre et du polar en particulier, il en existe beaucoup et sont très présents sur les réseaux sociaux, mais également lors des salons. Alors ce sont avant tout des passionnés et des femmes.
Beaucoup, oui. Bah, pareil, c'est toujours les mêmes chiffres, hein, 80%. Ah. On les retrouve de partout, à tous les niveaux. Après, on a quelques influenceurs avec qui on a pris des connaissances sur les salons, avec qui on a discuté, ce qui a permis de lier et qui retransmettent, qui repartagent systématiquement nos publications. On a aussi pas mal de lecteurs qui jouent le jeu, de bénévoles du salon qui jouent le jeu. Donc voilà, on essaye de faire partager les gens.
Ce sont avant tout des passionnés, ces blogueuses et ces blogueurs.
Ah mais totalement, ils passent leur vie, je ne sais pas comment ils font pour passer autant de temps à parler de livres tous les jours, systématiquement, les retours, les réceptions, les photos, les vidéos, je ne sais pas comment ils font.
Ces blogueuses et ces blogueurs sont très importants et sont carrément incontournables aujourd'hui.
Oui, oui. Sans eux, on est beaucoup moins vus, c'est clair.
La promo, ils en assurent une bonne partie.
Oui, ils repartagent quand même, ils le savent, hein, ils repartagent une bonne partie. Ouais. Il y en a quelques-uns qui jouent le jeu, où on repartage nous aussi des choses, où on les conseille aussi, parce qu'on a certains, je pense aux Chroniques du Polar par exemple, qui est présent sur plein de salons, qui est aussi en responsabilité avec le salon Chat Polar.
Pas forcément par rapport à vous, mais par rapport au Polar et au salon du Polar en général. Quoi.
Voilà, après on joue les sympas, c'est-à-dire qu'on n'est pas la team égoïste quand ils ont besoin de conseils, de savoir comment on fonctionne sur des points. Nous on n'est jamais fermé, on répond honnêtement. On fait comme ci, on fait comme ça. Sur tel point, on est coincé, on n'a pas de réponse. Par contre, si tu as besoin d'un contact, là, je peux te le donner. Voilà, on s'échange des contacts, on s'échange des tips, on s'échange des conseils, des choses à faire qui améliorent la vie, des choses à éviter parce que ça la complique, enfin, des choses comme ça.
Donc, c'est presque une petite famille que ce monde du Salon des Polars.
Ah, mais c'est exactement ça, oui.
C'est une petite famille.
Oui, une grande famille. Une grande famille. Même de leur reconnaître tous les membres, oui, c'est une famille énorme, mais on se sent bien avec eux, en tout cas.
On choisit ses amis, rarement sa famille, là. On choisit aussi sa famille, alors.
Là, oui. Oui, clairement.
Alors Nathalie, est-ce qu'on peut dire que tu es blogueuse ?
Pas à ce point, parce que j'ai pas de blog, donc le terme ne pourra pas se coller.
Influenceuse, tu n'irais pas non plus ?
Non plus, parce que je ne cherche pas à...
Partageuse de
c'est
livres.
C'est plus ça, partageuse, parce que c'est vrai que les auteurs mettent tout ce qu'ils ont dans leurs livres, leur temps, leurs émotions, leurs tout, et qu'ils ont besoin d'être vus. Donc quand on a aimé un livre, je trouve qu'il y a une certaine légitimité à en parler pour eux, en fait, tout simplement pour dire ce qu'on en a pensé, ce qu'on en a ressenti. La difficulté, c'est d'arriver à en parler sans spoiler l'histoire, en donnant un ressenti. Quand on n'a pas aimé, en toute franchise, se le dire aussi.
Toi, tu le fais, ouais.
Ouais, je le fais, parce que je trouve que les gens qui ne disent que du bien de tous les livres, ils ne sont pas crédibles. Et quand j'aime pas un livre, je le dis aussi, j'essaye de dire pourquoi et le fait que ça n'engage que moi. C'est un ressenti qui est personnel et qui peut être totalement différent chez quelqu'un d'autre. C'est un vrai exercice très compliqué parce qu'il ne faut pas non plus froisser les susceptibilités. Voilà, c'est tout un dosage. L'idée, c'est juste de mettre l'auteur en avant et lui uniquement.
Vous n'hésitez pas à fréquenter, voire à participer au salon du Polar des Autres.
Oui.
Je dis pas de bêtises, je pense à celui de Sens ou de Saint-Chef.
Oui, quand on peut, on donne un coup de main sur les salons partenaires, quand c'est des gens sympas qui les organisent et que c'est possible pour nous, on n'hésite pas à donner un coup de main, oui.
Ça permet également de créer des liens, un réseau, d'avoir plus facilement les autrices et les auteurs aussi.
C'est vrai que ça permet de les approcher de plus près, hein. Par exemple manger avec eux le soir, boire un verre, ce qu'on ne peut pas faire quand on est juste visiteur, parce que si tout le monde le faisait, les pauvres auteurs seraient complètement envahis, ce serait un cauchemar, ils ne voudraient plus venir en salon parce qu'ils ne pourraient plus respirer. Donc oui, ça permet une vraie approche, mais l'idée c'est qu'on voit aussi ce que c'est d'essayer de trouver des bénévoles. On sait que c'est compliqué, surtout des bénévoles investis qui seront là pour vraiment aider le salon et pas juste pour être avec les auteurs. Donc oui, quand on peut donner un coup de main, on le fait. Mais dans la condition quand même où en face, il y a du respect. On va donner un coup de main dans un salon où on sait qu'on est bénévole, on est respecté en tant que bénévole parce qu'on aide et qu'on n'est pas des larbins. Voilà, il y a une petite limite qu'on essaye aussi de doser nous-mêmes avec nos bénévoles. On les remercie infiniment de tout ce qu'ils font pour nous. Et on fait en sorte que quand ils soient au salon, c'est ce que disait Ophélie tout à l'heure, on essaie d'avoir un maximum de bénévoles pour qu'ils passent un minimum de temps et pouvoir profiter des auteurs, profiter du salon, des tables rondes, etc. Et ils ont des plannings et on fait en sorte qu'ils se tiennent à leur planning et on ne va pas aller les chercher en dehors en disant bah, « t'es bénévole aujourd'hui, on a besoin de toi, tu fais ça ». C'est vraiment l'idée, un bénévole est là d'abord pour son plaisir à lui. Et si on ne respecte pas ça, il ne reviendra pas en tant que bénévole et on aura perdu de l'aide, on aura perdu quelque chose d'important, parce qu'ils sont vraiment essentiels.
Donc c'était ton cas, Ophélie, au début ?
Au début, oui, oui.
Oui, au début.
Oui, oui,
tu
au début.
Simple bénévole.
Oui, simple bénévole. J'ai été bénévole sur le salon du Fantasy aussi, et ensuite la première année à Cépage. Ouais. Et du coup, oui, comme ça s'est bien passé, et c'est pour ça que je me suis investie un peu plus.
Toi aussi, tu aimes participer au salon des autres, quand tu peux ?
Quand je peux, ouais. Autant qu'on peut, on y va. Que ça soit, oui, à Sens, à Saint-Chef, à Iris.
À Iris, aussi. Surtout Iris. C'est nos salons préférés quand même, Iris Noir. Celui qui n'est jamais à l'Iris Noir, s'il aime le polar, il faut qu'il se débrouille comme il peut, mais il faut vraiment y aller. C'est le salon à ne pas rater.
Sans oublier Sans d'encre.
Sans
d'encre. Oui, bien sûr.
Ouais.
Oui.
Et cette année, alors Nathalie ne sera pas, parce qu'elle ne peut pas, mais moi j'y serai, à la Tournoire en Corse.
Premier salon Corse, ah. Voilà, je pleure de ne pas pouvoir y aller, c'était prévu, il y a des complications qui sont arrivées, qui en empêchent, mais c'est pareil, allez-y, c'est déjà la plage,
bah oui.
Ça ouais. Va être à côté de la plage. Donc vous m'enverrez des photos, comme ça je pleurerai depuis mon petit appartement en vous regardant, mais profitez-en tous.
C'est la troisième année que vous organisez Cépage Noir. Votre public vous est fidèle depuis le début ou il change d'une année à l'autre en fonction des autrices et des auteurs présents ?
Il évolue, il y a la fidélité des tout premiers qui sont arrivés et puis petit à petit on gagne en visibilité. Donc il y a les nouveaux qui arrivent, qui en parlent, qui font venir d'autres. La base reste la même, on va dire, mais ça augmente.
On parlait du public de Cépage Noir. Quelle catégorie d'âge et de sexe attirez-vous ?
Ah, tiens, on n'a pas fait le sondage là-dessus. On demande d'où viennent les gens,
ouais.
On demande comment ils nous ont
jeunes,
connus.
Des moins jeunes.
Je pense qu'on a un peu de tout. Hein.
Un peu de tout. Les très jeunes, on n'en a pas beaucoup. C'est vrai que les jeunes adultes ne sont pas trop lecteurs de polar encore. Enfin, même quand j'étais libraire, c'est ce que je voyais. C'était plus, on va dire, à partir de des trentenaires, à peu près, je
ouais,
dirais.
À peu près, ouais.
Jusqu'à retraité. Voilà, après, ouais. Le public est très, très, très varié.
Aussi féminin ? Que
oui.
80%.
Oui, bah oui,
ouais.
Beaucoup.
Ouais,
forcément.
Ouais,
aussi.
Le lieu du salon est important. Quelles conditions doit-il remplir ?
Avoir une salle suffisamment grande pour nous accueillir.
Première
surtout,
condition.
Surtout, que ça soit facile d'accès, du moins pour se garer pour les visiteurs. Et puis après, ben, surtout que ça intéresse le viticulteur. Quoi.
Voilà.
Comment trouve-t-on un lieu pour un tel salon ? Par connaissance ? Par un amour commun pour les bons vins et les bons polars ? Comment fait-on pour trouver un viticulteur ou une viticultrice ?
Compliqué.
Compliqué, c'est du porte-à-porte, c'est du démarchage, c'est aller les voir, aller à leurs événements, c'est aller aux journées portes ouvertes, aux after-work, discuter avec les gens sur place, leur parler du projet, aller sur les salons du vin aussi, ça a eu été
s'inscrire
fait.
S'inscrire sur toutes les pages Facebook des
voilà,
viticulteurs du coin.
Voilà, parler comme ça aussi à travers les messageries des réseaux sociaux. Et puis... oser le culot d'aller taper à la porte un jour en disant bah voilà, on a ce projet, votre domaine a l'air intéressant. On essaie de cibler les viticulteurs qui ont l'habitude déjà d'accueillir du public parce que tout simplement ça veut dire que potentiellement ils ont la place. Premier critère, parce que si on prend un viticulteur avec une cave où on tiendrait à 3, non, ça ne marchera pas, on ne peut pas faire en extérieur à cette saison-là, c'est trop risqué. Donc voilà, on les cible déjà quand on voit que sur les réseaux ils font des choses. Et après, on va aller voir, on apporte le projet. Des fois, ça les intéresse, des fois pas. C'est vraiment, non, c'est vraiment compliqué. C'est le stress à chaque fois de trouver le lieu qui pourrait nous accueillir. Oui.
Et vous goûtez forcément les produits du lieu qui est susceptible d'accueillir ces pages noires ?
Ah bah évidemment.
Forcément.
Ah oui.
Et il doit vous plaire ?
Ah pas du tout, comme je disais tout à l'heure. Oui. Je sais pas Ophélie, mais moi j'y connais rien en vin.
Il y a un minimum, non ?
Pas forcément.
Non,
j'aime
pas
le blanc,
après,
on va me faire goûter
ouais.
Un rouge, il pourrait ouais. Être excellent. C'est pas pour autant que je l'apprécierais parce que bon, je suis plus blanc.
C'est Ophélie la goûteuse.
Non, on goûte toutes les deux et on se
on
fait plaisir.
Toutes les deux, mais ouais, ouais.
Mais on n'est pas d'avis fiable, on va dire.
Non, non, non. Je ne suis pas arrêtée là-dessus, alors à moins que ça soit vraiment mauvais, mais sinon, je pense qu'il serait peut-être moins visible sur le réseau, vu qu'au ouais. Départ, on marche par là, du coup, on va peut-être moins de chances de se retrouver avec des vins qui ne soient pas bons. Après, c'est au goût de chacun et vraiment la perception de chacun. Donc, on
vous
a
regardez,
pas tous
un,
la même
vous regardez un peu les avis avant ou...
Pas du tout. Non, c'est
au
vraiment pas.
Vin, hein.
Oui, non, oui, c'est oui, vraiment oui, pas oui. un critère de sélection pour le salon en fait, parce que c'est comme tout, c'est une histoire de goût. De toute façon, a priori, entre Beaujolais et Bourgogne, il n'y a quand même pas de cru qui soit mauvais. Donc, on prend pas de risque en même temps. Bon, on fait pas le Beaujolais nouveau non plus, hein,
oui,
mais
heureusement,
voilà,
ouais.
parce que hormis celui-ci, je pense que on a vraiment d'excellents crus un peu partout.
Oui, oui, et du moins bon. C'est comme tout, hein.
Mais oui,
c'est comme la lecture, hein. Il y a des bons livres, il y a des mauvais
c'est
livres.
Ça.
Hein, voilà. C'est comme les chasseurs. Un bon chasseur, un mauvais chasseur. Avant de parler de l'édition 2024 de Cépages Noirs, un tout petit retour sur les deux premières éditions. Alors, quels souvenirs en avez-vous gardé et quels enseignements, surtout, en avez-vous tiré?
Les souvenirs, il y en a tellement.
Ouais, ah ouais.
Les sourires, déjà, de tout le monde. Les gens heureux. Les auteurs qui demandent à revenir. Ça, c'est, pour nous, c'est, quand, c'est gagné. Et c'est aussi peut-être la chose, je ne sais pas, Ophélie, tu me diras, mais moi, ce qui me marque le plus, c'est quand je commence à faire les démarchages pour les salons d'après, que j'en parle aux auteurs, que j'en parle aux éditeurs quand j'y croise sur les salons et qu'on dit « Ah mais oui, j'en ai entendu parler !» en positif. Et moi, ça, à chaque fois, ça me bluffe parce que je me dis « On est tout petit, on n'a que 15 auteurs, on est dans un coin paumé, on n'a fait que 2 éditions et encore... » L'an passé, on n'en avait fait qu'une. Et déjà, on disait, on en a entendu parler, ça a l'air bien. Moi, personnellement, c'est ce qui va me marquer le plus. Après, toi, Ophélie, je ne sais pas.
Pour moi, alors moi, j'ai vécu différemment, du coup, sur les deux premières éditions, une fois en tant que bénévole et une fois un petit peu plus stressante en tant que co-organisatrice. Sur la partie bénévole, alors moi, c'était purement que du plaisir. Enfin, voilà, j'ai vraiment vu ma journée, les auteurs, ouais, la gentillesse, en fait, vraiment des auteurs et l'accessibilité. Et sur la deuxième année, eh ben, c'est ouais, tous les sourires des gens, tous les retours après salon, surtout. Et toutes ces émotions et tout ce stress qui s'en va pour en garder que le positif et de se dire, bah, en fait, ouais, on l'a fait. Ça s'est super bien passé et au final, on est ouais, sur un nuage, en fait, après.
Alors, quels enseignements en avez-vous tiré?
Qu'il ne faut pas qu'on change la recette, déjà, principalement. Que la ligne de conduite qu'on a jusqu'à présent, d'avoir déjà un lieu comme ça, un peu original, d'allier les dégustations avec les tables rondes, avec les dédicaces, c'est quelque chose qui plaît aux visiteurs, qui plaît aux auteurs, qui plaît aux viticulteurs et qui nous plaît à nous. Voilà, pas changer la recette et garder cette optique de faire cette journée pour le plaisir des gens. Principalement pour qu'ils passent un bon moment, pour que ça reste accessible. Le salon est petit et l'idée, c'est qu'il le reste. On ne voudrait pas devenir une usine avec des centaines et des centaines et des centaines de visiteurs parce que les auteurs seraient plus accessibles, il n'y aurait plus cette qualité d'échange qu'on trouve sur les petits salons et on perdrait l'âme du salon lui-même. Donc ouais. Voilà, l'idée, c'est de rester ça. Après, que ça fluctue toute la journée, les passages, c'est bien, mais si on se retrouve avec 500 personnes autour de 15 auteurs... On perd l'âme du chose, de la chose.
Tu fais allusion au Quai du Polar, par exemple.
Hein. Oui, non, mais là, c'est une machine de guerre. Il n'y a même plus de comparaison possible. Mais oui, on ne va pas au Quai du Polar pour discuter avec les auteurs. Ce n'est pas possible. On va faire signer des livres. Point. Voilà, ce n'est pas la même chose.
L'édition 2024 se déroulera donc le samedi 27 avril au domaine Luquet à Fuissé, en Saône-et-Loire, comme l'année dernière, la Saône-et-Loire. Mais vous changez de région viticole et vinicole, puisqu'avec Blacé en 2022 et la chapelle de Guinchet en 2023, nous étions dans le Beaujolais, alors que cette fois-ci, vous serez dans le Mâconnais et pas loin du Pouilly-Fuissé, une région plus réputée pour ses blancs que pour son rouge. Vous auriez pu appeler le salon Cépage Blanc et changer de genre, celui de la littérature blanche.
On aurait pu, mais on perdrait l'âme. Je ne suis pas sûre de trouver la même convivialité dans la littérature blanche, vu ce que j'en entends dire par certains auteurs qui font les salons mixtes. Bon, bah deux salles, deux ambiances, hein, donc ça ne nous intéresse pas forcément. Mais comme je disais tout à l'heure, on reste ouvert au potentiel d'avoir un jour peut-être un auteur qui fait de la blanche qui vienne. Il faudrait quand même qu'il y ait un lien avec le reste du polar. L'an passé, on voulait inviter par exemple Mélissa D'Acosta parce qu'elle a sorti La Doublure. Et même si c'est qu'un livre noir parmi tout ce qu'elle a fait, il est tellement phénoménal qu'elle aurait eu sa place par exemple. Mmh. Et on a le sous-titre. Si on veut le faire, on a et ses accords de blanc. Donc on peut faire ce qu'on veut. C'est prévu dans la charte.
Donc rien à voir avec le vin qu'on proposera cette année.
Non.
Non, même s'il sera principalement blanc, c'est vrai.
Oui. Il y aura un seul rouge. Comment avez-vous choisi donc le lieu du salon 2024? Alors pourquoi le domaine de Luquet?
Eh bien, on cherchait Luquet. Beaucoup. On a envoyé beaucoup de mails. J'ai pris plein d'adresses et envoyé beaucoup de mails. Alors, soit on nous répondait que c'était trop petit, donc ils ne pouvaient pas nous accueillir. Soit que ça ne les intéressait pas. Soit ils avaient eu une mauvaise expérience, donc ils étaient frileux. Et là, en fait, peu de temps avant, donc sur leur page Facebook, j'ai vu la vidéo qu'ils avaient tournée pour leur porte ouverte. Et ça avait l'air suffisamment grand, super sympa comme endroit et tout. Connaissant Fuissé, parce que j'habite pas très loin, je sais que c'est facilement accessible de la gare, de l'autoroute et des différents axes de circulation. Donc en fait, on s'est juste payé le culot d'y aller, d'aller frapper la porte, proposer. Et au final, on s'est bien trouvé parce qu'elle était...
Enchantée.
Elle était enchantée que quelqu'un vienne lui proposer quelque chose clé en main en fait. Ils cherchent souvent des animations, à faire des animations. Et là, du coup, nous, on arrivait avec quelque chose qui était déjà tout fait. Et ils avaient juste à... Enfin, juste. C'est déjà énorme à nous prêter les lieux et à nous aider dans l'organisation du jour.
Une gare TGV et l'autoroute, pas très loin du salon, c'est indispensable pour le transport des autrices et des auteurs, ça, par contre.
Oui, oui, oui. L'aspect logistique... est quand même important parce que on a fait le test la première année, le viticulteur était quand même relativement loin et de l'hôtel partenaire et de la gare. Et c'est vrai que ça prend beaucoup de temps, du coup, pour faire les trajets. Les auteurs, on n'a pas non plus envie de les lever trop tôt le matin pour profiter. On n'a pas envie de clôturer le salon trop tôt pour les emmener et pas qu'ils ratent pas leur train. Donc le fait d'être à côté, c'est vraiment un vrai plus.
Alors côté autrice et auteur, alors comment les choisissez-vous? C'est sur invitation? On ne postule pas à ces pages noires, je crois.
Bien sûr que si.
Ah, on postule
pas mal. Oui, oui.
Alors, comment fait-on? C'est un mélange des deux, là ?
Ouais, c'est exactement ça. Alors, d'accord. Nous, déjà, on a nos coups de cœur. On a des auteurs qu'on adore. On adore soit la personne, soit ce qu'ils écrivent, soit les deux. Souvent les deux, d'ailleurs, la plupart du temps. Et on se dit qu'on aimerait les avoir, tout simplement, parce qu'on sait que ça se passera bien avec eux. Donc, on les invite. Après, libre à eux d'accepter ou pas. Leur maison d'édition de décider si on les intéresse ou pas. Parce que, comme on est petit, certaines maisons d'édition ne prennent pas la peine de répondre ou 6 mois après ou à une semaine du salon pour dire « Ah, au fait, il vient pas ». Et à côté de ça, on a aussi des auteurs qui voudraient venir. Donc, pour ceux qui sont intéressés, on va dire tout simplement. Alors déjà, il faut écrire du polar, c'est la base, ou du roman noir. Parce qu'on a eu aussi des demandes d'auteurs qui font du terroir. Non, c'est non, parce que c'est pas dans le thème du tout.
Même du terroir de polar.
Ah, si c'est du polar, ça passe.
Ah oui,
mais juste terroir, visite, du lieu. Enfin, on a eu des choses qui n'avaient aucun lien avec le salon. Donc, on s'est dit déjà, les auteurs ne sont pas renseignés sur le salon. C'est qu'on ne les intéresse pas. Donc, voilà, ce n'est pas très intéressant pour nous non plus. Mais c'est surtout qu'il faut qu'il y ait un lien avec le thème. Noir, polar, thriller, voilà. Et on demande juste qu'ils nous écrivent sur la boîte mail. Donc, c'est pagenoire@outlook.fr. En nous disant ce qu'ils écrivent, chez qui ils sont édités, et partie malheureusement importante pour nous, quels frais seraient pris en charge par leur maison d'édition. Parce que nous, on a besoin de savoir, quand on invite, déjà de calculer grosso modo le budget du futur salon, si on fait venir un auteur de Tataouine, combien ça va nous coûter en transport, combien de nuits d'hôtel il va falloir prévoir, parce que s'il vient de très loin, on ne peut pas le faire partir le soir, il ne sera jamais rentré chez lui, enfin, il faut qu'il soit confortable quand même, l'auteur. Donc voilà, on a vraiment ce parti budget qui devient malheureusement de plus en plus important dans nos recherches. Parce que, par toute transparence, les deux premières éditions, on en a laissé de notre poche. Et que c'est pas viable à long terme comme ça. On veut pas continuer comme ça. Donc on fait en sorte que notre budget, il rentre, il soit à l'équilibre, en fait, tout simplement. Donc si l'auteur coûte trop cher, à moins qu'il soit un potentiel de faire venir vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de lecteurs, on pourra pas le faire venir. Pas à nos frais, en tout cas.
En 2022, vous aviez invité à blasser 15 autrices et auteurs, dont 3 femmes. 15 en 2023, dont 6 femmes. Combien et qui avez-vous invité pour l'édition 2024 du Salon ?
Déjà, on a notre parrain, Alexis Lepsker, qui nous a fait le plaisir de nous annoncer qu'il aurait vraiment, 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 vraiment envie de revenir au salon. Donc, c'est pour ça qu'il vient 2 années d'affilée, parce qu'à la base, on n'avait pas prévu forcément de faire venir d'une année sur l'autre les mêmes auteurs. Mais son enthousiasme était tellement... ça a fait tellement plaisir que comment refuser, quoi, c'est juste impossible. Donc, par cadeau, c'est lui notre parrain cette année. On a Nicolas Nuten qui sera là, Anouk Schutterberg, Yann Manouk qui sera là, qui sera avec Gérard Coquet. Donc à tous les deux, ça nous fait au moins 4 auteurs, puisque ça fait Breuil, Breverman et Paige Coman en plus. Voilà. On aura René Manzor qui sera là, Isabelle Villain, Gérard Sarian, Ophélie Cohen, Sébastien Bouchery, Colline Gattel, Christophe Royer, Xavier Massé, Nicolas Feuze et Yvan Zinberg. Ça nous fait 15 auteurs.
Alors pourquoi le chiffre 15? C'est symbolique ou c'est une limite que vous êtes fixée?
C'est une limite parce que plus on aura du mal à les faire tenir dans une cave, déjà. Déjà la 15, c'est difficile de trouver un viticulteur, donc si on augmente le nombre, on augmente la difficulté aussi. Au niveau budget aussi, c'est la grosse, grosse limite. Même au niveau budget, honnêtement, on pourrait en avoir moins, ça nous arrangerait. Mais après, ça fait petit, ça fait peu. Il faut quand même que les visiteurs, quand ils viennent, ils aient beaucoup de potentiel pour discuter avec beaucoup de monde et faire signer leurs livres. Voilà.
Même si chaque année, on découvre de nouvelles autrices et de nouveaux auteurs, c'est facile de trouver tous les ans 15 autrices et auteurs différents.
Ouais, notre liste, elle est très longue.
Ah oui, oui. On commence avec une liste, il y a au moins 50 noms dessus, par élimination, ceux qui ne peuvent pas, ceux qui coûtent trop cher.
Ceux qui reviennent.
Voilà. Ceux qui reviennent, on essaie de les... On les met ensuite. En fait, on essaie de prioriser ceux qui ne sont pas venus. Et ensuite, on regarde ceux qui sont déjà venus pour les faire revenir.
Vous les sélectionnez sur quels critères? Ils ont forcément sorti un livre il y a peu.
Pas forcément. Non. On préfère. En tout cas, pour qu'ils fassent partie du prix du salon, il faut qu'ils aient un livre qui soit sorti dans l'année précédente. Par exemple, là, 2024, ce seront des livres qui sont sortis en 2023. Après, on a certaines maisons d'édition qu'on tient absolument à avoir sur le salon. Donc, je pense à IFS, qui fait les romans noirs d'Ophélie Cohen, de Sébastien Boucherie cette année, par exemple. Et Tornada, des éditeurs, qui sont vraiment sympathiques, qui sont extrêmement investis pour leurs auteurs. Donc, je trouve normal de leur donner un coup de main aussi, parce qu'eux font beaucoup pour leurs auteurs, donc il y a un lien qui se crée comme ça. Donc systématiquement, on veut des auteurs de ces maisons d'édition. Quelquefois, en liant les contraintes budget, on se retrouve à inviter des auteurs qui n'ont pas forcément eu de sortie. C'est le cas cette année avec Sébastien Boucherie, qui n'a rien sorti en 2023. C'est pas grave, il n'est jamais venu. Donc c'est un plaisir de l'accueillir. Ça a été le cas l'an dernier avec Clarence Pitts. Pareil, elle n'avait pas de nouveauté, mais elle n'était jamais venue. Et ce qu'elle écrit est tellement phénoménal qu'il n'y a pas de souci. Elle avait toute sa place au salon.
Alors les autrices et les auteurs aiment aller à la rencontre de leur public.
Oui.
Ils aiment aussi se retrouver entre eux. Faire la promo, c'est aussi du plaisir pour eux.
On espère en tout cas que c'est du plaisir pour eux. On les encourage fortement à partager, ça c'est sûr. Bon, après, ils sont en salon tous les week-ends, donc on comprend bien que ce n'est pas toujours évident pour eux non plus de partager systématiquement chaque salon.
Ah bon ?
Je pense que ça leur prend du temps aussi. La plupart des auteurs sont des gens qui ont un autre travail à côté et qui cumulent. Donc, ils ont des journées interminables entre les salons les week-ends, le travail la semaine, le temps d'écriture. Ils ont quand même des familles. Je ne sais pas comment ils font, s'ils ont d'ubiquité ou quoi. Donc oui, ça se comprend qu'ils n'aient pas toujours la possibilité de partager. En tout cas, c'est quand ils le font, ça fait une vraie différence pour la visibilité.
Alors, les autrices et les auteurs aiment se retrouver entre eux. Participer à un salon n'est pas forcément de tout repos pour eux. On ne doit pas s'ennuyer avec eux. Il y a des meneuses, il y a des meneurs, là.
Ah bah toujours. Oui, après je ne sais pas si on citera des noms, mais disons que comme dans toute société, il y a les extravertis, les introvertis, mais en principe...
Il y a des bons vivants.
Oui, il y a des bons vivants.
Et des bonnes vivantes.
Oh, oui. On est assuré de rire avec eux, et si jamais on se retrouve avec un auteur qui n'est pas forcément un clown, de tous les cas de figure, ils sont passionnants. Donc on sait qu'on passera de forcément un excellent moment.
Puis il suffit de voir leur tête le dimanche matin, quand les salons ont lieu pendant deux jours, pour comprendre que ça s'est bien passé le samedi soir.
En principe, oui.
Alors Xavier Massé, Ophélie Cohen, Christophe Royer et Alexis Leipziger sont de retour pour la deuxième fois en trois éditions.
Oui.
Ce sont vos chouchous?
On a tellement de chouchous. Si on faisait un salon de chouchous, on aurait 50 auteurs.
C'est ça.
Mais ces quatre-là reviennent pour la deuxième fois en trois ans.
Oui, parce que c'est pareil, quand on lit, on fait le mix entre nos envies et nos contraintes budgétaires. Voilà, on se retrouve à faire revenir des auteurs qui sont déjà venus, en fait, honnêtement. Le premier salon s'est tellement bien passé que si on avait voulu, on aurait fait revenir toujours les mêmes, parce que c'était vraiment très bien. Et on s'est dit, on ne peut pas faire ça quand même, il faut qu'on change. Mais on les aime tellement que quand ils ont envie de revenir, on a envie aussi. Donc voilà, quand c'est possible, on le fait.
Comme tout bon salon qui se respecte, vous dressez un prix cépage noir. En 2022, c'était Xavier Massé. En 2023, c'était Jacques Sausset.
Oui.
En 2024, dans la sélection, il y a les derniers romans de Nicolas Nutten, Anouk Schutterberg, Xavier Massé, Ophélie Cohen, Nicolas Feuze et Alexis Leipziger. Comment s'est faite la sélection?
Tu veux en parler, Ophélie?
Du coup, à toutes les deux, on lit tous les livres qui sont sortis de l'année des auteurs qu'on a invités. On essaie de choisir 6 d'entre eux qui soient plus ou moins homogènes, en fait, qui sont un peu notre coup de cœur à toutes les deux. Et ensuite, on propose ces 6-là au jury qui fait la notation dans les 2 mois après la lecture.
C'est vrai que c'est pas simple parce que
c'est forcément subjectif.
C'est toujours subjectif. Toujours. Forcément. Donc on lit tous les auteurs sortis l'année d'avant, on leur met des notes en fait, on essaie d'avoir une base concrète. Enfin, je sais pas toi Ophélie, moi je sais que j'ai une base avec des critères.
Ouais, mais sûr, on a la même.
Ouais, tu l'as pris aussi du coup. Avec des critères objectifs et subjectifs de notation, comme la crédibilité, comme le suspense, comme les impressions qu'on n'arrive pas à définir. Les impressions subjectives, on met une note sur 20 sur tout ça. Et quand on a lu tous les livres, on regarde ceux qui ont la meilleure note. Et si on est d'accord toutes les deux sur le livre, il passe en sélection.
S'il est ou elle est sympa, c'est encore mieux. Il fait partie de la notation
Non. La sympathie de l'auteur ne fait pas partie de la notation, parce que de toute façon, si l'auteur n'est pas sympa, il ne vient pas. Ça fait partie des critères d'invitation.
Donc, ils sont tous sympas.
Ils sont tous sympas.
Même ceux qui sourient moins.
C'est de l'introversion.
C'est la nature.
Et voilà.
Alors l'autrice ou l'auteur qui remportera le prix Cépage Noir 2024 aura le privilège d'avoir le fameux bandeau rouge autour de son roman.
On ne sait pas la couleur du bandeau, c'est l'éditeur qui choisit.
Ah, il n'est pas forcément rouge.
Non, l'année dernière, celui de Jacques était en rapport à la couleur de sa couverture.
Ça a forcément un impact sur les ventes futures?
On n'a pas eu de retour dessus.
Ça peut.
Honnêtement, j'ai aucune notion parce que pour avoir travaillé en librairie, beaucoup de livres ont beaucoup de bandeaux avec beaucoup de prix. Donc je ne sais pas si ça fait une différence ou pas, mais en tout cas, ça fait toujours plaisir de le voir.
Qui auriez-vous aimé inviter et qui n'a pas pu ou pas voulu venir?
Vous avez 3 jours devant vous, là, qu'on fasse la liste. Qui n'a pas pu venir? Déjà, par exemple, je parlais de l'autrice qui ne pourra jamais venir, c'est Sandrine Détombe. Voilà, parce qu'elle fête son anniversaire ce week-end-là, un double anniversaire très important pour elle. Donc, c'est une date qu'elle ne loupera jamais, donc elle ne sera jamais à notre salon. On avait invité Petroni Rostania, mais maintenant...
C'est la première année, en plus, elle devait venir, non? Elle aurait dû venir.
Elle aurait dû venir, ouais. Et puis là, pareil, elle n'est plus assez près, on va dire, pour pouvoir venir à notre salon maintenant. Ça devient plus compliqué. Parmi toutes les femmes qu'on aurait voulu inviter, il y avait par exemple Cécile Cabanac, mais elle habite très, 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 très loin. Donc au niveau budget, ça ne passait pas. C'était le cas aussi pour Angelina Delcroix. On a qui qu'on aurait voulu faire venir cette année? Mais il y en a tellement.
La liste était très, très longue et du coup, j'ai un peu de mal.
Il y en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Pour les séances dédicaces, il faut des livres.
Oui.
Soit le public amène les siens sur lesquels vous collez la fameuse gommette connue par tous les amateurs de salon du polar, soit les autrices et les auteurs n'amenant pas d'exemplaires les achètent sur place. Alors avec quel libraire travaillez-vous?
Alors, on travaille avec le Cultura de Villefranche-sur-Saône, Eddy, qui a une équipe fabuleuse. La première année, on était avec le De Citre de Crèche, qui a malheureusement fermé depuis. Depuis l'année dernière, on est en partenariat avec Cultura de Villefranche-sur-Saône.
Comment un libraire s'organise pour les livres qu'il propose et surtout combien par autrice et auteur, sachant que ces derniers ont rarement publié un seul roman?
Ça, on laisse à la discrétion d'Eddy, en fait. On lui donne la liste des auteurs présents et c'est lui qui voit. C'est lui qui voit parce qu'il organise des dédicaces aussi au magasin. Ils sont aussi partenaires sur d'autres salons. La première année, je leur ai donné les chiffres qui avaient été faits sur l'édition 2022. On avait beaucoup trop commandé. On s'était dit, vaut mieux en avoir trop que pas assez. On avait eu beaucoup trop. Donc voilà, il a pu doser déjà par rapport à ça. Et il est dans la même optique de commander vraiment beaucoup de livres. Même s'il y en a trop, c'est pas grave. Mieux vaut en ramener au magasin que d'avoir une rupture le jour du salon.
Des fois, il n'y en a pas assez. J'ai souvenir à Sens, il y avait une auteure ou une autrice qui n'avait plus de livres.
Oui, ça arrivait.
Sens, ils jouaient à la fin sur le... Bon, là, ils sont sur 2 jours, mais ils jouaient à la fin sur qui aura plus de livres sur sa table.
Ils mettaient des petits panneaux, des petits bandeaux. Les auteurs, c'est très rigolo. Mais non, l'idée, c'est vraiment d'éviter ça, justement, parce qu'on n'est que sur une journée. Et pour les visiteurs qui viennent, c'est tellement frustrant de vouloir un livre et qu'il ne soit plus là.
Effectivement, c'est frustrant.
Parce que des fois, il y a ça. Il y a les soucis aussi de livraison qui ne viennent pas toujours du libraire. Ça peut être le diffuseur, ça peut être une rupture de stock, c'est en cours de réimpression. Il y a beaucoup de paramètres en fait dont on n'a pas forcément conscience qui peuvent entrer en jeu. Ouais.
Alexis Leipsker, donc c'est votre parrain d'édition 2024.
Oui.
Il a remporté de nombreux prix et un de ses romans, Le Mangeur d'âme, a fait l'objet d'une adaptation au cinéma qui sortira le 24 avril 2024, 3 jours avant sa venue à Cépage Noir.
Oui. Mm-hmm.
Sa présence peut attirer du monde qui ne connaît pas ses romans.
On espère.
Ouais.
On espère.
Là, c'est un hasard. Hein.
Oui, c'est vrai, on ne sait pas. Est-ce que les gens qui n'ont pas l'habitude de lire vont faire le lien entre le film et le livre qui en a l'origine? J'ai comme un doute.
Vu que ce n'est pas le livre qui réalise?
On verra. En tout cas, on a mis des flyers au cinéma le plus proche, à Macron. Donc...
S'il passe au cinéma.
Oui.
Il devrait?
Oui, je pense.
Oui, je leur ai demandé, oui.
Alexis Leipsker sera à la fois le parrain de la 3e édition et dans la sélection du prix Cépage Noir 2024.
Oui.
Peut-on à la fois être parrain et sélectionné pour le prix? Y aurait-il pas un conflit d'intérêts?
On s'est posé la question parce qu'il était dans le prix avant qu'on ait décidé qu'il soit parrain. De toute façon, vu la qualité de son roman, on ne voit pas comment il aurait pu ne pas être dans le prix. C'était pas logique, donc forcément. Et après, on s'est dit, non, il est invité, il est parrain, d'accord, mais pourquoi pas? Où est le problème? Non. Il n'y a pas de conflit.
Alors, il existe en France 210 cépages autorisés, 10 représentant à eux seuls 70% de la surface plantée en vigne. Dans les polars, c'est un peu pareil. Une minorité des autrices et des auteurs représente la majorité des ventes.
Oui.
Pour attirer du monde à votre salon, vous cherchez forcément à accueillir un représentant ou une représentante de cette minorité, celle qui vend le plus?
On est obligé. On est obligé parce que si on n'a pas un auteur ou une autrice connue du grand public, le grand public ne vient pas. Et si on fait venir que les connaisseurs, c'est un public qui est relativement restreint quand même. Surtout qu'il faut quand même prendre le temps de faire la route jusque ce petit coin, le chercher. Enfin. Et ça se donnait de la peine quand même de venir sur un salon du livre. Donc il faut vraiment attirer un maximum de monde en mettant quelqu'un susceptible d'être connu d'un maximum de monde.
C'est qui l'auteur ou l'autrice connue?
Cette année, je dirais que c'est Alexis qui va être sans doute le plus visible, je pense. Si on doit lire un seul nom, je pense que ce serait lui. Mais après, il y a René Manzor qui a beaucoup de visibilité.
Anouk Schutterberg aussi. Je pense qu'elle commence à en avoir beaucoup.
Voilà, Colin Gatel avait eu un vrai succès avec Les Suppliciés du Rhône. Donc Lyon qui se passe pas loin, est-ce que les gens feront le lien, enfin, voilà.
Alors est-ce qu'un Mini, un Tilliez ou un Norec, tout de suite, votre salon entrerait forcément dans une nouvelle ère avec un autre statut? Ces pages noires ne seraient plus le même salon avec des noms pareils?
Oh, ce serait le même salon, mais avec sûrement plus de visiteurs. Oui, oui, après, ils ont été invités, évidemment.
Bah, j'imagine.
Mais, voilà, vu leur planning juste absolument fou, et le fait que, comme ils sont très demandés, là, c'est vraiment les maisons d'édition qui trient, qui filtrent, et pour l'instant, on n'est pas assez intéressant pour les maisons d'édition, je pense. On n'a pas assez de potentiel de vente. Il faut qu'ils acceptent que leur plus gros vendeur se déplace.
Ils viennent à Saint-Chef, mais pas chez vous. Et pas à ces pages noires.
Saint-Chef, ça n'a pas le même budget que nous non plus. Ils se connaissent entre eux aussi. Il y a aussi ce phénomène, c'est que les auteurs se connaissent tous entre eux. La personne qui organise Saint-Chef est aussi une autrice. Donc le lien n'est pas le même. Ah ouais. Donc il y a aussi ce côté où l'auteur peut dire à la maison d'édition « Non, mais j'y vais ». Point. C'est ce qui peut se passer sur des salons comme Saint-Chef qui a quand même attiré à peu près 2000 personnes l'an passé. Donc nous, on en est loin. Donc je ne dis pas, peut-être qu'un jour, ils diront si je veux vraiment y aller, ils viendront quand même, hein, on espère. Mais voilà, on comprend que ce ne soit pas le cas en tout cas.
Inviter une star du polar, ça veut dire avoir d'autres moyens financiers. Le plus important, ça parlait de la durée du salon qui se déroule actuellement sur une seule journée.
Non, puisqu'il va manger et dormir comme n'importe quel autre auteur. Donc au niveau financier, ça ne changera rien. C'est juste au niveau vraiment de la visibilité que ça peut changer les choses.
Il y aura 3 tables rondes, comme chaque année.
Oui, oui.
C'est pas le cas dans tous les salons d'ailleurs. C'est le meilleur moyen pour que le public présent reste la journée au salon.
Oui,
c'est un
vrai.
Des moyens.
Oui, ça les fait rester. Les dégustations sont un très très bon moyen aussi quand même. Hein, j'avoue, ils aiment bien les visiteurs pouvoir goûter le vin en dehors des dédicaces.
On boit rarement toute la journée dans les tables.
Non, on goûte. Enfin, et puis
on peut.
C'est de la dégustation.
Oui, c'est ça.
Et on peut avoir soif.
Mais je pense que ce qui les fait rester le plus, c'est au-delà des tables rondes où ils ont des choses à voir, à écouter, qui changent un peu, c'est le fait qu'ils peuvent réellement discuter avec les auteurs. Ils peuvent se permettre de rester un bon moment à la table de dédicace, à échanger, et avec chacun des auteurs. Donc potentiellement 15 auteurs, ça fait beaucoup de minutes de discussion. Donc je pense que c'est ça qui fait vraiment rester les gens, c'est le fait d'avoir la possibilité de gagner, de passer du temps, vraiment.
Ces tables rondes ont été animées par vous deux, hein,
oui,
Nathalie
c'est ça,
et Ophélie,
oui.
Mais pas seulement, si.
La première année, on avait aussi Marc-Olivier Rinchard qui en avait animé une. Voilà.
Est-ce que c'est facile de jouer à l'animatrice parce que c'est presque un métier. Enfin, pour certains, c'est un métier.
C'est un vrai métier. Donc nous, on est clairement amatrice. On n'a pas la prétention de faire ça de façon professionnelle. C'est un exercice qui n'est pas toujours simple. Il faut arriver à s'exprimer devant du monde. Il faut trouver les questions qui soient pertinentes. Le souci, c'est que c'est un peu toujours les mêmes questions qui reviennent. Donc ça peut lasser les auteurs. C'est d'arriver à rebondir sur leurs réponses, à ne pas se tenir forcément à ce qui a été écrit. C'est un exercice, c'est intéressant à faire.
Ophélie.
Grande première l'année dernière pour moi, un peu de stress, mais du coup, j'étais avec Jacques Saucé et Claire Favant, et franchement, ils étaient adorables et ils savaient le stress que moi j'avais, donc ils ont fait tout le boulot. Donc c'était merveilleux.
Dans ce table ronde, il y a un thème. Et quels seront les 3 thèmes et les autrices et les auteurs qui se prêteront à ce jeu fort agréable, ma foi?
On a une table ronde avec Ophélie Cohen et Yvan Zinberg sur le lien entre écrivain de polar et flic dans la vie réelle. On a une table ronde avec sur la folie.
Ouais, sur la folie avec Anouk et Alexis. Et puis on aura une table ronde sur l'écriture à 4 mains, comme on a la chance d'avoir Gérard Coquet et Yann Manou.
Et
puis Isabelle Villain qui a écrit avec Magali Coé.
Vous choisissez forcément des autrices et des auteurs qui sont bavards. Ils ne sont pas tous forcément à l'aise devant un public.
Non, on les choisit en fonction du thème qu'on arrive à trouver,
ouais,
plus qu'autre chose en fait. Trouver un thème, un lien entre différents romans pour pouvoir en faire un thème. On essaye de mettre en avant des auteurs connus et d'autres moins connus. On essaye de jongler un peu avec les deux.
Bon, s'ils sont bavards, c'est mieux.
Oui, mais ça, des fois, on ne le sait pas toujours avant.
Bah oui.
Ouais.
Sur les réseaux sociaux, lorsque vous présentez une autrice ou un auteur, bah, c'est sous forme d'interview.
Oui.
Et à la fin, il y a le traditionnel portrait chinois.
Oui.
Alors si nous aussi, aujourd'hui, nous vous dressions votre portrait chinois avec les questions concernant les autrices et les auteurs que vous invitez et que vous avez invités depuis 2022.
Oui.
Hein, vous êtes prête?
On va essayer.
Alors, si vous étiez, par rapport à ces pages noires, si vous étiez un lieu.
Une cave.
Ouais.
Donc par rapport aux différents salons de ces pages noires.
Hein. On est tellement bien accueillis. Alors, il n'y a eu que 2 éditions et à chaque fois, on était accueillis comme des rois. Donc c'est juste impossible d'en choisir un sur les 2 qui nous a accueillis.
Donc un lieu, c'est une cave. Voilà.
Oui, un lieu, c'est une cave.
Voilà.
C'est vraiment
un domaine
généraliste.
Un vin.
Moi, je serais blanc.
Blanc aussi.
Moi, pour le
blanc,
coup.
Un blanc moelleux, je précise en plus. Moelleux.
Donc ça ne sera peut-être pas le cas à
Les pouillis sont quand même
bien... Oui, du pouilly fuissé, il y a de la vieille vigne, je pense que la cave va se garnir, si. Ouais.
Un auteur.
Ah, un auteur. Un seul pour tout le salon.
Oui, c'est un portrait chinois, hein. C'est vous qui l'avez lancé.
J'aurais envie de dire Cédric Cyr, parce qu'il est à l'origine, il ne le sait pas forcément, mais il est à l'origine de toute cette aventure, puisque c'est grâce à lui que moi je me suis lancée dans l'organisation et tout ça. Pour la petite histoire, il était venu au Fantasy en Beaujolais en 2013. C'est la première fois que je l'ai rencontré, je n'avais même jamais vu avant. Comme il est très sympathique, l'amitié est née assez facilement. On a gardé un lien, il est revenu au salon ensuite plusieurs fois. À chaque fois, il accepte. Et à chaque fois, il était de bons conseils sur l'organisation, sur les choses à faire, les choses à éviter. Et il a été un vrai support d'apprentissage, on va dire ça comme ça. Et il a toujours répondu présent, que ce soit pour être parrain au Fantasy en Beaujolais, à l'époque, quand on lui a demandé, il a dit oui tout de suite. Pour être parrain l'année dernière, il a dit oui tout de suite. Donc, je pense qu'on peut le citer lui parce que il est vraiment à l'origine de toute cette aventure.
Ophélie.
Eh ben Jacques. Alors Jacques Saucé. J'ai été découvert quelqu'un de vraiment adorable, gentil, à l'écoute des autres, qui déstresse, qui aime discuter et vraiment ouais. Et même quand on connaît pas trop ou qu'on est un peu timide, du coup il met super à l'aise et ouais, c'est vraiment quelqu'un d'adorable.
Une autrice.
Eh bien, du coup, je vais continuer.
Bah oui, continue.
Je vais continuer. Donc, avec Claire Favant. Alors, elle a vraiment ce côté comme Jacques, qui est vraiment gentil, qui aide. Et pour le coup, l'année dernière, pour la petite histoire, j'avais ma nièce en tant que bénévole. J'y avais dit de venir parce qu'elle aimerait bosser en maison d'édition plus tard. Elle s'était un peu démotivée dans ses études. Donc, j'ai dit, viens, discute avec les gens. Et on avait le directeur de la maison d'édition de Fleuve. Et c'est Claire, en fait, qui a pris ma nièce par la main parce qu'elle savait ce qu'elle voulait faire et qui l'a emmenée vers Florian Lafamy pour qu'ils discutent ensemble et qu'ils la remotivent et qu'ils lui disent quoi faire pour arriver à ce qu'elle voudrait faire plus tard. Et j'ai trouvé ça adorable, alors qu'elle ne la connaissait pas du tout.
Nathalie, une autrice.
Autrice, difficile aussi d'en trouver une. Je dirais peut-être Max Monehay, parce que bon, tout ont du talent, et c'est sans doute le dernier roman qui m'a vraiment marqué, qui m'a bluffé, comme ces trois romans. À chaque fois, elle me scotche. Donc voilà, et elle a l'air toute gentille comme ça, toute, on ne dirait pas, elle cache bien son jeu, elle écrit des choses phénoménales. Quoi.
Un visiteur ou une visiteuse, quelqu'un qui vous aurait marqué? Alors, en bien ou en mal, hein, peut-être malheureusement.
On a tellement peu le temps de les voir.
Ah ouais, moi, j'aurais répondu que... ça, c'est ça, j'y vois à peine.
Ouais, c'est qu'on les croise très, très peu.
Vous les croisez pas, les visiteurs et les visiteuses?
On a très peu de temps.
On les croise, mais on parle très peu avec. Ouais.
On court dans tous les sens.
C'est eux qui vous voient, c'est pas l'inverse, ouais.
Ouais, voilà, c'est voilà. Ça. Peut-être ceux qu'on croise sur les autres salons et qui, du coup, sont venus, ont essayé de glisser un mot ou deux ou nous ont reparlé sur d'autres salons plus tard.
Oui, c'est ça, ceux qu'on retrouve... Ouais. C'est très compliqué comme question.
Alors, un blogueur ou une blogueuse?
Ah, j'irais les Chroniques du Polar, ouais, qui est un soutien indéfectible et qu'on retrouve régulièrement sur les salons. Anthony est tellement investi dans ce qu'il fait, il est incroyable. Ouais.
Et pour terminer, un parrain?
Un parrain?
Il y en a eu trois. Donc.
Pour pas trop me démarquer de ce que j'ai déjà dit, pour moi ce sera forcément Cédric parce que c'est un vrai soutien depuis le début.
Voilà.
Moi, j'aurais dit Cédric aussi, mais par la personnalité. Et, c'est vraiment une lumière, en fait, cette personne. Et pour tout ce qu'elle a apporté et tout ce qu'elle a dit aussi sur le reportage qui a été fait l'année dernière, ouais. C'était vraiment extraordinaire.
Pourtant, ce qu'il écrit...
Oui, voilà. Tout le noir est là, il reste que la lumière.
Alors, on parle du salon, des autrices et des auteurs, du vin et des tables rondes. Que proposez-vous d'autre, que ce soit de la restauration, avec ou sans les autrices et auteurs présents, des expositions, des ventes d'objets?
Il y aura, oui, vente d'objets. On a notre partenaire Marouchka Création qui sera sur place et qui propose des objets cousus en lien avec le livre. Donc, les pochettes de protection pour les livres, pour les liseuses, les sacs, les tote bags, les coussins de lecture. Enfin, ce genre de choses, voilà, qu'elle proposera et qui, pour avoir une pochette, c'est un confort exceptionnel pour ne pas abîmer sa liseuse et ni ses livres. C'est génial.
On pourra déguster du bon vin et se restaurer.
Oui, on a le food truck, je te laisse en parler. Ophélie, tu maîtrises mieux.
Donc on a le food truck L'Épicurienne, en fait, qui a accepté cette année de venir donc faire non seulement les repas des auteurs et donc des personnes qui ont pris le repas avec les auteurs et qui servira aussi tout au long de la journée les repas pour les visiteurs.
Sans oublier les adhésions, on peut adhérer.
Bien sûr, on encourage fortement.
Quel est l'avenir de Cépage Noir à court et à moyen terme plus d'autrices et d'auteurs sur 2 jours, un autre format, des rencontres pas forcément sur une seule journée et un seul lieu, de nouveaux bénévoles. Quel est l'avenir de ces pages noires?
À court terme, ça va déjà être de faire le salon le mieux possible, celui qui approche. Et après, à voir. Tout est fonction déjà du temps qu'on arrivera à débloquer parce que c'est pas toujours évident d'organiser des choses. Ça prend beaucoup de temps pour très peu de temps sur le moment. Si on peut refaire le format apéro polar, on en refera.
Vous l'avez fait une fois?
On l'a fait une fois, c'était une très bonne expérience.
Gérard Coquet, oui.
Ça, on est ouvert à le refaire. Pour l'instant, on n'a encore pas trouvé le temps de démarcher des viticulteurs qui le feraient. Les auteurs, ils sont plutôt partants, donc je pense que ce ne sera pas trop compliqué. Ça pourra être refait. On ne sait pas quand, il n'y a pas de date, ça reste dans un petit coin. Voilà, après changer de format. Si un jour on avait le budget, l'argent qui tombe du ciel, oui, on passerait sur 2 jours. Mais tant que l'argent ne tombe pas du ciel, pour l'instant, ce n'est pas possible.
Alors, donc vous avez encore plein d'autrices et d'auteurs à inviter. Elle peut être là, la source de motivation, le challenge à relever à ces pages noires. Inviter tous ceux que vous n'avez pas réussi à inviter jusqu'à présent?
Oui, on aimerait bien. On aimerait. D'ailleurs, on a déjà quelques noms pour l'année prochaine. On a commencé à démarcher.
La liste, elle est déjà. On a déjà une trentaine de personnes sur la liste.
Facilement. On en a qui ont été contactés, même déjà, qui ont répondu oui.
Des nouveaux?
Un nouveau, un qui revient. Le qui revient, c'est parce que. Il a tellement de talent qu'on ne pouvait pas ne pas le faire revenir. En même temps, ils sont un peu tous comme ça, mais... Mais oui, puis de ce côté aussi, il y a un vrai soutien. Donc oui, voilà, il y en a déjà 2 noms. 2 noms pour 2025 qui resteront secrets pendant encore presque 1 an.
Bien. Nathalie Mazzoli et Philippe Dotté, merci d'avoir accepté l'invitation de Radio B.
Merci à toi.
Merci.
Alors rappelons que la 3e édition du Salon du Polar, Ces Pages Noires, aura lieu au domaine Luquet à Fuissé, en Saône-et-Loire, le samedi 27 avril de 10h à 18h. Alors, quelles autrices et auteurs pourra-t-on rencontrer et faire dédicacer leurs livres?
Eh bien, donc, Alexis Lepsker qui sera le parrain.
Nicolas Nuten.
Anouk Schutterberg.
Paige Coman avec Gérard Coquet et Yann Manouk.
René Manzor.
Isabelle Villain.
Gérard Sarian.
Ophélie Cohen.
Sébastien Bouchery.
Colline Gattel.
Christophe Royer.
Xavier Massé.
Nicolas Feuze.
Et Yvan Zinberg.
Sans oublier les incontournables tables rondes qui sera autour de la table de Ces Pages Noires.
Nous aurons Alexis et Anouk pour une table ronde. Nous aurons Gérard Coquet, Yann Manouk et Isabelle Villain sur une deuxième. Et sur la dernière, nous aurons Ophélie Cohen et Yvan Zinberg.
On pourra se restaurer, boire un coup et acheter quelques souvenirs du salon.
Évidemment.
Exactement.
On peut suivre l'actualité donc, de Ces Pages Noires sur Internet via les réseaux sociaux.
Oui, Facebook, Instagram.
Nathalie et Ophélie, bonne chance pour la 3e édition du Salon du Polar Ces Pages Noires le 27 avril prochain.
Merci.
Merci.
Bonne lecture, bon salon et puis à bientôt sur Radio B.
À bientôt.
À bientôt.
Yeah!